Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous vaut le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre Hervé Mariton qui vient de faire paraître chez Pygmalion son premier ouvrage « Transmettre pour construire ». Un ouvrage de 249 pages pour 19,90 €. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps pour faire suite à cette invitation qui va permettre à nos auditeurs, d'une part, de mieux connaître l'auteur et son œuvre, mais aussi l'homme et sa vision. Alors, vous êtes polytechnicien, ingénieur du corps des mines, diplômé de l'IEP de Paris, après avoir été lauréat du concours général en russe. Un parcours de formation donc assez exceptionnel qui pourrait vous permettre de vous en prévaloir avant d'afficher l'expérience des responsabilités de l'homme politique que vous êtes, avec un sous-jacent donc intellectuel favorisant la réflexion. Alors, coïncidence, vous le savez, l'École des mines, impériale des mines, dit-on d'ailleurs, fête ses 200 ans cette année. Ça vous inspire une réflexion, un peu de nostalgie ?
Ah, ce sont les 200 ans du corps des mines et c'est évidemment un moment important parce que un anniversaire est toujours important, à la fois pour savoir d'où vient et où va un corps comme le corps des mines. Et au fond, c'est tout de suite le sujet de mon ouvrage, en effet. Moi, je ne tire pas fierté extraordinaire, ou en tout cas, je ne tire pas vanité, j'essaye, ni du corps auquel j'appartiens ou de ma formation. C'est une des forces de la France de pouvoir offrir à des jeunes issus de milieux relativement modestes des formations de grande qualité. Voilà, et j'en suis reconnaissant à la nation, et j'en suis donc redevable à la nation. Sur l'anniversaire du corps des mines, et puis des éléments de l'actualité toute récente, c'est quoi ces structures historiques ou ces lieux historiques, l'École des mines sur le boulevard Saint-Michel et ce qu'elles peuvent donner à la nation? Il n'y a plus beaucoup de mines en France. L'activité minière reste importante. Quand Areva se voit menacée dans ses mines d'uranium au Niger, on est évidemment sur un enjeu stratégique du pays. Quand on parle des terres rares dont les Chinois sont propriétaires et qui sont si essentielles à tant de technologies nouvelles, on voit bien que les questions d'extraction de mines sont importantes et en même temps, la plus grande part des ingénieurs des mines n'exercent pas dans les mines, mais, et j'évoque ces questions d'expertise dans mon livre, ont toujours l'idée, comme beaucoup d'ingénieurs en France, qu'un peu de rigueur, un peu d'exigence scientifique ne nuit pas et est parfois indispensable à la décision publique. L'homme politique, le ministre, l'homme politique a besoin d'expertise. Il ne faut pas que les experts prennent toute la place, mais on a besoin d'eux. Faut-il encore, en effet, bien définir leur mission? Et au-delà même des experts, je trouve qu'un peu de rigueur scientifique, un peu de formation scientifique ne nuit pas à l'exercice de la politique. J'entends tant de gens exprimer un tel mépris des chiffres que je me dis qu'avoir en politique quelques hommes, j'en suis, quelques femmes, j'ai des collègues qui ont un itinéraire scientifique, qui sont des ingénieurs, des scientifiques, c'est plutôt une valeur ajoutée pour la politique. Et c'est ça aussi l'avenir dans un système qui est celui des écoles, des grandes écoles. Je suis le résultat des grandes écoles, je ne m'en excuse pas. Je trouve que c'est plutôt un atout, une force, une chance pour notre pays. Et donc oui, il y a là de la tradition, mais il y a de l'avenir, pour autant qu'on ait à cœur constamment de renaître et de se régénérer, qu'on ait bien conscience que la transmission, c'est ce qu'on a reçu, mais beaucoup ce qu'on transmet aux autres, et que, pour l'essentiel, l'important, c'est de transmettre des choses futures.
Alors, précisément, on voit que cette introduction montre votre force de conviction. Et votre ouvrage, donc, « Transmettre pour construire », porte effectivement cette double empreinte de l'ingénieur et de l'homme politique et d'une vision très personnelle mise en valeur donc par des entretiens avec M. Fabrice Madouas, qui est particulièrement connu dans le domaine économique, rédacteur en chef de Adjoint de Valeurs Actuelles. Alors, pourquoi ce choix, alors que vous pouvez vous appuyer sur une qualité d'écriture particulièrement agréable? C'est une façon peut-être de plus synthétiser les choses.
C'est essentiellement l'angoisse du calendrier. Je n'ai pas exactement l'angoisse de la feuille blanche. J'écris assez régulièrement dans les journaux des tribunes.
Oui,
je prends toujours beaucoup de plaisir à écrire des tribunes. Ça prend un peu de temps, ça suppose de bien organiser les 2 heures nécessaires à écrire une tribune. J'ai publié récemment dans le quotidien économique La Tribune un papier que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire sur le fait de dominer la crise. La crise existe, mais il ne faut pas que la crise nous affole. Elle doit être assumée comme une contrainte qui est un élément pour continuer d'agir. Alors, quand un homme politique un peu actif, et j'essaye de l'être, se dit « ça vaudrait la peine d'écrire un bouquin pour fixer le débat sur les valeurs et voir comment il s'applique à un nombre de sujets concrets de la vie d'aujourd'hui et de demain », c'est ça le sujet de mon livre « Transmettre pour construire », le problème est tout bonnement un problème d'organisation et de savoir comment trouver le temps de faire le livre. Et je me suis dit que la technique de l'entretien, avec en plus un garçon de la qualité, l'acuité d'esprit de Fabrice Madouas, c'était une bonne manière de s'obliger à, parce qu'on coince une série de jeudi matin et on travaille sur l'entretien. Et en même temps, je crois que vous l'avez bien noté, j'ai eu envie d'écrire une part substantielle directement sous forme d'essai, parce que je souhaitais à la fois me présenter un peu plus clairement, et puis avant de rentrer dans le débat sur les 8 sujets que nous abordons dans le livre, fixer, proposer une grille de valeurs. Et on a donc un livre un petit peu original, avec une partie essai, qui est fondamentalement le cadre général, les valeurs qui me paraît important de mettre en avant, un dialogue sur 8 sujets successifs, avec à la fin de chacun des 8 thèmes, des propositions que je formule et que je mets au débat, et puis une conclusion qui est là aussi pour, au fond, proposer une synthèse de nouveau sur le thème des valeurs. On met des valeurs au débat, on les confronte à 8 sujets concrets et on regarde à la sortie ce qu'il en est.
Alors vous êtes homme politique, député de la Drôme, ancien ministre de l'Outre-mer. De cette expérience, bien entendu, revient la source de cet essai qui, à bien des égards, s'apparente à une profession de foi. Mais cet essai porte aussi l'empreinte d'une culture multipolaire qui est d'une sensibilité qui s'appuie sur, je dirais, une connaissance assez aiguë à la fois des religions et des civilisations.
La question religieuse est importante dans mon livre. Il se trouve que sur un certain nombre de sujets, en particulier la politique familiale ou les questions de bioéthique, j'ai, pour dire les choses rapidement et nettement, des positions souvent proches de l'Église catholique. Et je suis parfois perçu, à l'Assemblée et au-delà de l'Assemblée, comme le cateau de service. Il se trouve que la réalité n'est pas exactement celle-ci. Maman était juive, j'ai perdu maman il y a un peu plus d'un an, et je suis très pénétré de cette part de mon identité. Mon père était un bon catholique dauphinois, mais l'identité maternelle, l'identité paternelle pèse l'un et l'autre.
Oui, tout à fait.
Et assez clairement, j'ai voulu le dire, parce que c'est important dans mon identité, et j'ai voulu aussi, traitant de sujets sur lesquels les églises en général, d'autres mouvements de la société, mais les églises, l'église catholique, d'autres églises, le judaïsme aussi, bien sûr, mais éminemment l'Église catholique ont beaucoup travaillé. J'ai souhaité expliciter les choses pour éviter toute ambiguïté.
Alors nous allons y revenir dans une deuxième partie. Ce que je voulais souligner, c'est ce que vous dites, réformer sans affrontement ni rupture, et en visant le juste. C'est cela donc que transmettre pour vous.
Oui, clairement, à la fois ma réflexion politique, mon engagement humain, mais aussi mon expérience d'ingénieur, m'amène à penser que la rupture n'est pas le meilleur paradigme. Oui, parfois, souvent, il faut trancher. Donc je ne pense pas être un mollasson, je ne suis pas un mou. En même temps, je pense qu'il est essentiel de chercher l'équilibre, et l'équilibre ne se trouve pas par l'addition de contraires. Il est important de trouver un chemin qui soit juste et équilibré. Je cite un dialogue que j'ai eu et qui m'a beaucoup frappé, déçu aussi d'une certaine manière, avec le président de l'Université de Dauphine. Lorsque je lui demande s'il a regardé l'ensemble des dimensions d'une réforme qu'il introduisait pour faire varier les droits d'inscription à l'Université de Dauphine en fonction des revenus des parents, et qu'il me dit très directement « je préfère une réforme simple à une réforme juste ». Je rêve que les deux ne soient pas incompatibles. Et donc, lui, j'ai envie de lui demander de travailler sa copie davantage, et j'essaye de travailler la mienne.
Alors, dans le prolongement de vos précédents rapports, et notamment centré sur les problèmes de société, vous passez donc en revue dans cet ouvrage tous les domaines qui représentent des grands enjeux pour notre pays et pour le monde, donc l'école, l'identité nationale, les lois de la bioéthique, nous allons y revenir, la politique familiale, le monde numérique. Et revenons peut-être, avant d'arriver sur le dernier chapitre que vous développez sur la partie économie et finances, sur deux sujets qui sont assez peu souvent abordés par les hommes politiques, et donc précisément celui de la bioéthique et celui du monde numérique. Alors, la bioéthique, vous avez ouvert le paragraphe tout à l'heure dans votre précédente intervention, mais vous allez très très au fond, hein, c'est-à-dire que vous touchez à la fois au problème de l'avortement, de la fin de vie, de l'euthanasie, de la position de l'Église. Pour vous, ça m'est apparu comme étant un sujet central, le sujet de la vie.
C'est un sujet d'actualité. Mon livre n'est pas hors actualité.
Tout à fait, tout à fait.
J'ai obtenu, avec d'autres de mes collègues, mais je me suis mobilisé pour cela, que nous discutions réellement à l'Assemblée nationale à l'automne 2010, là, dans les quelques semaines qui viennent, des projets de loi de bioéthique, ce qui n'était pas au départ dans les intentions du gouvernement. Mais j'ai dit un jour au président de la République qu'il était bien de faire la réforme des retraites, de mon point de vue, qu'il était bien d'envisager de traiter les questions de la dépendance. Mais je lui ai dit, pour avoir un peu une formule, une phrase, après le troisième âge, on va s'occuper du quatrième âge, après les retraites, la dépendance. Tout ça n'est pas peut-être le plus enthousiasmant du monde. Et puis, il faut aborder d'autres sujets, à la fois des sujets plus joyeux, et puis des sujets aussi fondateurs, des sujets de société dans lesquels on décolle un peu des réformes essentielles, importantes, mais assez matérielles et matérialistes, que sont la réforme des retraites et la réforme de la dépendance. Je crois que j'ai été entendu et l'exécutif, le gouvernement, va mettre à l'ordre du jour, d'ici la fin de l'année, à l'Assemblée nationale, la révision des lois de bioéthique. C'est aussi un sujet qui passionne les gens. Moi, j'ai eu une forme de révélation lorsque j'ai organisé dans ma ville de Cré, dans la Drôme, je suis maire de cette très jolie petite ville de la Drôme, il y a un peu plus d'un an, un débat. À ce débat, plusieurs centaines de personnes sont venues. C'est vrai que les invités étaient de qualité, aussi bien de grands scientifiques, hommes d'église comme le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon. Mais la passion que les Français mettent sur ces sujets est quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et c'est aussi pour moi une extraordinaire source d'optimisme en politique, parce que ça montre que lorsqu'on élève un peu le débat, eh bien, on n'est pas dans le désert. Il y a une vision de la politique dans laquelle on considère au fond que les gens s'en fichent, qu'ils ne s'intéressent qu'à des éléments tout à fait contingents,
oui,
et matériels. Et que d'ailleurs, le niveau d'explication doit être extrêmement ras du terrain. Eh bien, la réalité est toute différente. Il ne faut pas noyer les gens dans de la littérature, du pathos, des élucubrations. Mais oui, il y a une aspiration à faire décoller le débat. Et un livre sur la transmission et la construction amené nécessairement à évoquer les questions de bioéthique. Mais, vous l'avez cité, un autre champ sur d'autres enjeux du monde moderne avec des questions plus nouvelles qui sont celles de l'éthique du numérique. Au fond, la bioéthique, certes, les mères porteuses, on n'en aurait pas parlé il y a 100 ans. Et il y a un certain nombre de questions dans la bioéthique qui sont des questions éternelles. Dans l'éthique du numérique, on est sur des sujets nouveaux. Et c'est sur ces deux sujets, mais il y a 8 thèmes dans le livre, il aurait pu y en avoir d'autres, une manière de démontrer que la transmission peut être un paradigme fécond du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. J'aurais pu traiter des sujets beaucoup plus techniques. Je suis à l'Assemblée nationale, à la Commission des finances, rapporteur du budget des transports. Au fond, transport, transmission, on a bien l'idée de mouvement dans la transmission, dans la tradition aussi, tradéré. Mais dans les transports, éminemment, et j'aurais pu, je me suis moi-même mis en tête ce que pouvait être, ce qu'aurait pu être un 9e chapitre consacré aux questions de transport, rappelant par exemple que pour offrir véritablement un meilleur service demain, et c'est l'idée du livre, comment faire en sorte de faire des choses meilleures. Je pense à la chanson de Guy Béard qu'il vient juste de sortir, qui est le meilleur des choses. Ben, pour faire des choses meilleures, il ne faut pas se contenter de rompre et de vouloir offrir des technologies nouvelles. Évidemment qu'il faut des technologies nouvelles, mais attention dans le domaine des transports à la fascination systématique des lignes à grande vitesse. Il faut aussi s'occuper de la rénovation des réseaux existants et de l'optimisation des infrastructures dans un monde où les ressources sont sous contrainte et en quantité limitée. Voilà, je suis en train de vous développer et d'écrire le chapitre que je n'ai pas écrit, mais parce que...
Sur votre prochain livre, peut-être pas.
Non, il faut aussi se renouveler, justement, car la transmission est affaire de renouvellement. Ça n'est pas un concept ringard, ça n'est pas un concept ancien, ça n'est pas un concept de pur héritage, c'est une vision d'avenir. On pourrait dire c'est banal, je pense pas tout à fait. Un peu, parce qu'il y a eu un autre paradigme lors de l'actuel mandat qui est celui de la rupture, mais pas uniquement. Je discutais avec quelques amis lecteurs qui soulignent que cette crise de la transmission en France et probablement dans d'autres sociétés occidentales, en tout cas particulièrement en France, est une crise qui date probablement des années 70.
D'ailleurs, je vais lire un passage très bref qui donne exactement le ton et qui rappelle ce que vous venez de dire. La modernité de la transmission, en page 33, transmettre est une manière moderne de faire de la politique. Pour une raison positive, parce que nous sommes dans une société de l'information qui, par définition, vit de la transmission et l'engendre à son tour. Par expérience, parce que la rupture, qu'elle soit présomption idéologique ou prétention méthodologique, ne donne que des fruits amers, le combat de la vie, la dignité de la personne, le progrès du monde ne se construisent pas sur une table rase. Je crois que c'est très très bien. Bien dit, et c'est le ton général de votre livre. Alors, on a passé donc sur deux sujets centraux. Il y en a bien d'autres, bien entendu, je l'ai dit, mais il faut laisser aussi un peu d'appétit à nos auditeurs. L'école, notamment, vous faites des développements qui sont extrêmement intéressants. On en vient maintenant au domaine économique. Vous avez fondé le club politique Réforme et Modernité. Vous êtes l'auteur du rapport en 2010 « Mesurer pour comprendre ». Et vous êtes particulièrement actif à la commission des finances, dont vous êtes membre à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors, c'est donc en expert que vous avez développé un certain nombre de réflexions sur ces sujets dans le dernier chapitre de votre ouvrage. Et le premier de ces grands sujets, c'est la dette des États, grande injustice, dites-vous. Alors, grande injustice pour qui ?
Injustice aujourd'hui, injustice demain. Injustice aujourd'hui entre les Français, injustice entre la France et le reste du monde. Perte de pouvoir. Clairement, si on nous dit aujourd'hui que l'Europe va se mêler de notre budget, c'est parce que la dette nous met en position de faiblesse. Et notre relation aussi bien avec les Émirats qu'avec la Chine est conditionnée par la nécessité de trouver des prêteurs. Et clairement, c'est une dégradation de notre souveraineté et alors, une forme d'injustice politique. Mais c'est évidemment, encore plus gravement, une injustice à l'égard des générations futures qui auront à supporter une dette, qui est une dette justifiée parfois par l'investissement. Alors, cela peut se comprendre, mais qui est aussi, comme on le voit dans le domaine des finances sociales, de la sécurité sociale, tout simplement une dette de fonctionnement. Ces jours-ci, à l'Assemblée nationale, nous discutons du financement de la dette sociale dans un exercice qui consiste fondamentalement à renvoyer sur des générations futures le financement de l'achat de nos médicaments d'aujourd'hui. Ça n'est tout de même pas très glorieux, c'est profondément injuste.
Alors, que faut-il faire ? Je reviens d'un mot quand même légèrement en arrière pour vous poser la question suivante. Vous faites attention, enfin, vous avez pris beaucoup de précautions à ne pas désigner de coupable de cette situation. Pourquoi on en est arrivé là ? Alors, néanmoins, on va dire que vous donnez l'absolution, en gros, aux agences de notation. Par contre, vous égratignez un petit peu les banquiers. Mais la classe dirigeante, elle n'était pas pour quelque chose dans cette situation ?
Il y a évidemment beaucoup de responsables. Il y a simplement, s'agissant des banques, une situation particulière, c'est qu'on a le sentiment que quoi qu'il arrive, les banques y gagnent. Que lorsqu'elles sont en situation difficile, dans une passe difficile, l'État vient à la rescousse, qu'elles gagnent de l'argent avant, qu'elles gardent de l'argent pendant. Par exemple, un certain nombre des moyens mobilisés par l'État pour faire face à la crise sont passés par des levées bancaires et des intermédiations bancaires qui permettent aux banques de gagner de l'argent pour les actions même destinées à les aider et elles gagnent de l'argent après. Cet aspect, aussi fragile qu'on soit, quelles que soient les erreurs qu'on réalise, individuellement, les personnes, collectivement, les banques, à tous les coups on gagne, à tout de même, pour le parlementaire, fût-il libéral que je suis, quelque chose de troublant. Les agences de notation, je ne dis pas que leur gouvernance est parfaite, je ne dis pas que leur mode de fonctionnement est parfait, mais on les a peut-être un peu facilement stigmatisées, elles. Eh bien, la dette, vous me posiez au début de votre question une interrogation plus fondamentale. La bonne réponse à la dette, c'est la rigueur. Enfin, la critique que je fais fondamentalement, oui, c'est la pudeur que l'on a dans notre pays à utiliser le mot rigueur, entendons-nous. Je ne dis pas rigueur au sens d'une augmentation des impôts, mais je dis rigueur au sens d'une maîtrise de la dépense. Or, je constate, quand on prépare les budgets, quand on prépare le budget 2011, qu'on regarde plus volontiers du côté du rabotage des niches fiscales, ça veut dire augmentation des impôts, et qu'on a la main assez légère dans la contrainte sur la dépense.
Alors vous êtes assez proche donc de Pascal pour la morale sur le capitalisme, André Comte-Sponsville. Vous êtes par ailleurs, donc, vous venez de le dire, proche de Turgot pour la gestion, l'approche de la rigueur. Vous le faites bien entendu en libéral. Votre corde de rappel, c'est celle d'un libéral.
Oui.
Mais libéral, encore faut-il savoir comment on interprète libéral.
Je me dis libéral pragmatique.
Voilà, libéral pragmatique.
Libéral, parce que je pense que la liberté des personnes, vous utilisez une très bonne notion, est une très heureuse corde de rappel. Enfin, il faut tout de même quelques principes dans la vie. Je parle de transmission, je propose des principes, mais chérir la liberté, c'est aussi un principe tout à fait essentiel. Et ensuite, j'évite d'avoir l'esprit de système. À la fois, il faut des principes, éviter de flotter comme fétu de paille au fil de l'eau. Et en même temps, je crois qu'il faut vivre ces principes avec exigence, clairvoyance et intelligence, si c'est possible.
Alors, quel est, avant de conclure, le grand message que vous voulez délivrer à l'issue de cette réflexion très, très approfondie ? Si vous y avez une priorité, enfin, je crois que d'abord, la question n'est peut-être pas tout à fait sensée, mais parce qu'il y a toujours plusieurs priorités. Mais en tout cas, dans l'échelle des priorités, ce que vous priorisez.
Deux choses. Il y a l'état d'esprit général de ce travail qui consiste à dire que l'histoire ne nous est pas imposée, que nous la construisons, mais que nous ne pouvons la construire heureusement qu'en ayant des valeurs, des principes, constamment renouvelés, constamment aérés, constamment justifiés, constamment vivifiés, mais qui inspire notre action, et à partir de là, on prend les problèmes à bras-le-corps. J'insiste beaucoup sur les questions de politique familiale, parce que je pense que c'est un enjeu de société, je pense que c'est un enjeu pour le monde, je pense que c'est un enjeu pour la France. Nous avons plutôt aujourd'hui une politique familiale intelligente, et au motif de la crise, à la recherche d'économie, à la recherche de nouveautés, au nom d'un prétendu nouveau modèle de société, il y a un vrai risque que notre politique familiale soit abîmée. Donc ça, je pense que c'est un sujet auquel il faut toujours faire attention. Les questions d'identité sont aussi tout à fait essentielles. Je propose un chapitre que j'ai intitulé « Le don de l'identité ». Je pense que la fierté d'être français, comme le disait récemment le ministre Éric Besson, est quelque chose de tout à fait essentiel. Et il y a un chapitre sur l'identité, il y a un chapitre sur la défense dans le livre. Au fond, ne pas renoncer à la puissance. Mais la politique familiale s'intègre aussi dans cette idée-là. En tant qu'homme politique, en tant que citoyen de France, je n'ai pas envie de renoncer à la puissance. Vous m'accueillez pour cette interview dans les locaux magiques, simples et magiques à la fois, qui sont ceux de l'Institut de France. Évidemment qu'il y a un mouvement de la géographie, un mouvement de la technologie, un mouvement de la démographie. Je ne me résigne pas à l'idée que la France et que le monde avec lequel je peux partager des valeurs, une culture, j'aime beaucoup la Russie. Quelques heures après répondre à votre invitation, j'irai voir une pièce de Gogol. Enfin, tout ça fait partie de ma civilisation. Je ne me résigne pas à la mort de la civilisation dans laquelle je baigne, qui puise dans l'histoire, mais que j'ai aussi envie de transmettre. Donc c'est, peut-être de manière un peu immodeste, à sa manière, un message de civilisation.
Parfait, donc c'était une profession de foi qui éclaire l'avenir et le présent. Comme le disait si bien saint Thomas d'Aquin que vous citez dans votre conclusion, il est plus beau d'éclairer que de briller seulement. De même est-il plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. C'était donc Hervé Mariton. Et pour la parution de son dernier ouvrage, « Transmettre pour construire » chez Pygmalion, un ouvrage de 249 pages, 19,90 €. Monsieur le ministre, merci encore pour cet entretien.
Merci, je propose aussi à ceux qui le veulent de poursuivre le débat, par exemple sur mon blog, hervé-mariton.net.
Nous vous recevrons avec grand plaisir à nouveau pour votre prochaine parution. Merci à vous, monsieur le ministre.
C'est un plaisir. Merci.